Une boîte ne vous appartient plus au premier salarié. Donc en fait, un manager doit toujours penser à ses équipes dans une dimension plus large que de simples ressources. Elles deviennent en fait le cœur vivant de son entreprise.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafont, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Salut Alexandre, bienvenue sur Génération Management, je suis ravi de t'accueillir. Déjà pour commencer, comment vas-tu ?
Eh bien, bonjour Louis. Bah, écoute, je vais très bien. On a un beau soleil pollué ici à Lyon.
C'est vrai.
Et puis, ça me fait plaisir de faire partie de ton podcast, puisque on va spoiler les auditeurs de ton podcast. Ta start-up est une start-up qui a été incubée chez nous.
Exactement.
Donc, on se connaît bien et ça me fait trop plaisir d'avoir été invité. Je suis très flatté.
Ouais, c'est clair. Bah, écoute, moi aussi, ça me fait super plaisir. Effectivement, bah, on peut commencer par parler un peu de toi et Incubator. Est-ce que tu peux te présenter et aussi présenter ce qu'est Incubator ?
Alors, je sais que c'est un podcast de management. Donc, mon nom est Alexandre Fourtois, j'ai 53 ans et une très grande expérience de management puisque j'ai 4 enfants, une femme et un chien. Alors, on ne manage pas sa femme, on se fait plutôt manager, mais peut-être un peu son chien et ses enfants. Donc, j'ai une carrière qui a déjà une carrière assez éclectique, puisque je suis diplômé de l'EM Lyon. J'ai commencé ma carrière dans les médias. J'ai travaillé pour le groupe Canal+, pour le groupe RTL. J'ai créé des chaînes de télévision avant de switcher sur Internet, où j'ai participé à la création d'un des plus grands réseaux de sites sportifs en Europe, qui s'appelait Sportal, avant d'être débauché par l'UEFA, où j'ai passé 12 ans à développer toute la stratégie digitale, la production télé, l'IT, au sein d'une filiale. J'ai quitté en 2012 pour créer mon entreprise, et cette entreprise, c'est une entreprise dans la transmission, dans l'accompagnement, c'est Incubator.
Ok, et en quelques mots, Incubator ?
Incubator, entreprise née en 2016, premier réseau d'innovation en France parce que déjà premier réseau, on a ouvert à Lyon et Bordeaux en 2016, ensuite nous avons ouvert à Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Paris et on est présent dans toute cette ville pour investir, aider des startups à se créer, à grandir, à trouver leurs premiers clients, à créer leurs produits, à lever des fonds. Et nous avons également une grande activité qui se développe de plus en plus, qui est d'aider les entreprises, on va dire, entre guillemets, de l'économie traditionnelle à innover, soit en travaillant avec des startups, soit en révélant les forces créatives de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Ok. Et donc, effectivement, premier réseau de France, donc présent dans une dizaine de villes, c'est à peu près une soixantaine de collaborateurs, si je ne me trompe pas.
60 collaborateurs répartis sur tout le territoire avec une culture qui a été nourrie par une croissance rapide.
Ouais.
On a doublé de taille en 2 ans, donc okay. Ça fait de grands changements, des changements organisationnels, des changements d'état d'esprit, des évolutions de culture.
Mmh. Ouais.
Une époque riche, mais aussi difficile.
Ouais.
On arrive au bout là.
effectivement, sans transition, du coup, c'est le sujet du jour, c'est comment on renforce sa culture d'entreprise et comment on maintient la cohésion d'équipe avec le parfait exemple d'Incubator présent dans une dizaine de villes et plus de 60 collaborateurs. Déjà, pour poser un peu le contexte, qu'est-ce qui est mis en place chez Incubator pour favoriser la culture d'entreprise ? En tout cas, depuis sa création.
Alors moi, j'ai une question pour toi, Louis.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens du tout premier atelier que tu as fait chez Incubator ?
Ouais. C'était
Mission,
Vision, Valeur.
Exactement.
Animé par toi.
Et pourquoi je te pose la question ? Parce que pour nous, ce que tu appelles la culture d'entreprise, mais en fait, nous, qu'on a tendance à appeler plutôt les valeurs à mettre dans son entreprise, combinées à la mission de l'entreprise et puis à la vision, souvent, de l'entrepreneur, c'est à la base de toute entreprise. Et c'est pour ça que toutes les startups qui viennent chez nous, donc plus de 1000 au moment où nous parlons, commencent par cet atelier-là pour qu'on comprenne que créer une entreprise, ben, ça crée un mini-écosystème dans lequel qui ne survit pas s'il n'a pas une raison d'être. Et c'est ça, les valeurs, la mission, la vision. Okay. Ce que toi, tu packages sous le mot « culture d'entreprise ». Alors moi, je ne vais pas dire culture au singulier, je vais dire culture avec un S d'entreprise, parce que le premier enseignement que j'ai chez Incubator, c'est qu'on n'a pas une culture d'entreprise, on en a plein qui sont nés et qui meurent tout au long de l'histoire de l'entreprise. Okay. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui gravite autour de ce triptyque mission, vision, valeur, mais qui évolue tout le temps parce qu'elle est faite par les gens dans l'entreprise. Et nous, chez Incubator, on a vu deux grandes tendances très fortes. On a eu la période, on va dire, 2016-2018-19, qui est la période start-up. On n'était vraiment pas beaucoup, donc tout le monde se connaît. Ambiance extrêmement familiale, start-up, tous décident, tous discutent, tout le monde fait tout. Et puis la deuxième période, on a doublé de taille, on passait de 30 à 60. Et là, ben, c'est structure, RH, nécessité d'avoir des règles, des missions plus précises, une organisation plus efficace. Et ça génère finalement deux étapes de culture différentes. Et notre erreur, ça a été probablement de vouloir préserver la première culture familiale start-up, alors que finalement, il nous a fallu le temps de comprendre que la culture, parce que c'est les gens qui la font, n'oubliez jamais ça, tous ceux qui nous écoutent, c'est vos équipes qui font la culture, c'est pas vous qui l'imposez. Et bien en fait, plutôt que d'accompagner une évolution de culture, on a eu une petite période où moi, le dirigeant fondateur, je luttais pour qu'on ne passe pas à la nouvelle, qu'on reste dans les concepts de l'ancienne. Et ça, c'était une erreur. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à donner. Alors, comment on préserve la cohésion d'entreprise ? C'est deux sujets différents. Parce que nous, c'est vrai qu'à l'instar de pas mal d'entreprises qui peuvent nous écouter, parce qu'on s'est étendu sur toute la France, on a une équipe qui est pour un tiers à Lyon, vingtaine de personnes à peu près. Et puis, on a tous les autres bureaux, les équipes oscillent entre 3 et 6 personnes.
Okay.
Et ce n'est pas facile déjà parce qu'il y a deux problèmes à résoudre. D'abord, maintenir une bonne communication, une bonne cohésion alors que les gens ne sont pas tous présents, pas tous ensemble, quoi. Et deux, d'avoir des cultures parallèles d'entreprises qui se développent parce que d'un côté, vous avez Lyon qui fonctionne comme une petite PME, une vingtaine de personnes, etc. Puis d'autres bureaux, quand on est à 3 à 5, ce n'est pas du tout la même chose qui se développe. Alors nous, on a cette chance, c'est qu'en plus des salariés, on a les start-up. Donc on a quand même toujours du monde.
Ouais.
Mais, c'est un vrai challenge. Alors qu'est-ce qu'on fait très, très pratiquement ? Très pratiquement, déjà, nous, on est des gros consommateurs, et tu le sais bien, de chat, c'est-à-dire d'un cas de chat, notre messagerie. Où ça circule, ça échange, ça communique en permanence. Donc, on a quand même toujours le sentiment que les gens sont un petit peu là. Deuxième chose, c'est que nous avons des réunions d'équipe toutes les semaines. Et à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois, on a une grosse réunion en visio qui s'appelle All Star, c'est-à-dire où sont placées les équipes chez nous. Elle a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui, ce matin, qui est une réunion qui est d'ailleurs organisée pas toujours par les mêmes personnes, dans lesquelles les sujets sont postés par les salariés et par les divisions qui veulent donner des infos. Et on a comme ça cette grand-messe mensuelle où tout le monde peut parler, s'exprimer, se voir, prendre des nouvelles.
Donc ça, c'est avec tous les collaborateurs d'Incubator ?
Tous. Donc ça, c'est des choses...
Vous abordez quel type de sujet ? C'est plutôt sur l'actualité d'un cas ou sur les
problématiques ? Beaucoup sur tout.
D'accord.
Alors, beaucoup sur l'actualité de l'entreprise, les progrès, que tout le monde soit au courant, les changements. On change beaucoup, on a beaucoup de nouveaux projets. Beaucoup d'appels à projets, parce que chez nous, on a ce concept, on a des projets transverses où tout le monde peut participer. Donc, c'est là où on fait les appels pour dire, on lance un projet là-dessus, qui veut en être, puis après, voilà.
Okay.
Et puis, lorsqu'on a des choses plus RH à discuter, des informations qui tiennent, au congé payé, ces innovations-là, souvent c'est là que les questions sont posées. Alors, pour libérer la parole, parce que c'est pas toujours simple de lever la main dans une visio quand on est 60. En fait, on fait circuler avant une feuille anonyme où tout le monde peut poser les questions qu'il souhaite. Comme ça, ça nous permet justement de débloquer cette parole-là.
Okay.
Donc, une petite méthode toute simple, mais qui marche bien, donc qui peut être un bon tips pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis après, on a des choses qui sont plus globales. On ne peut pas éviter le voyage, c'est-à-dire qu'on a deux principes. C'est que tous les collaborateurs sont formés à Lyon.
Okay.
Très égoïstement, ça me permet de tous les rencontrer quand ils arrivent. Pour moi, c'est super important, ouais, parce que 60, ce n'est pas non plus une équipe immense. Deuxièmement, donc ils ont tous un temps. Et deuxièmement, les collaborateurs ont un temps d'immersion dans un autre bureau. Donc ça, c'est surtout valable pour les start-up managers. Un start-up manager qui va être embauché, mettons, à Toulouse, va être immergé pendant une semaine, 15 jours, plutôt une semaine, dans un autre bureau pour apprendre son métier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... Ben, ça vous marque, les relations se conservent, etc., etc. Et puis enfin, ça sera le dernier point sur ce qu'on fait, parce qu'il est légendaire maintenant. Le séminaire. Tous les ans, jusqu'à présent, parce que je pense qu'on a une prochaine étape de croissance qui rendra peut-être ça plus difficile en une seule fois, mais nous organisons un grand séminaire qui est généralement de nuit, de jour, dans un lieu.
Ouais.
Ça reste toujours assez roots, c'est-à-dire c'est pas l'objectif, c'est pas de payer un hôtel de luxe, mais plutôt de se retrouver, c'est souvent un peu chambre partagée, etc. etc.
Okay.
C'est organisé par les collaborateurs eux-mêmes.
Okay.
Il y a une journée qui a un temps de travail sur où tout le monde se retrouve. On organise des sessions de travail sur des sujets clés pour l'avenir de l'entreprise. Et puis le reste du temps, c'est un peu c'est des activités qui nous permettent tous de mieux nous connaître.
Okay.
Donc c'est souvent très drôle. C'est très bien pensé. On a eu de la murder party au faux col. On a eu plein de choses. Moi, dans les séminaires, l'incubateur... je me suis retrouvé avec du sang sur les mains, j'ai mangé des verres, voilà. Et puis, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais toi, tu peux. J'ai toujours dans mon bureau une photo d'un séminaire légendaire, puisqu'il coïncidait avec mon 50e anniversaire, et qui a été un grand souvenir. Donc ça, c'est des moments de convivialité qui sont forts, qui, ouais, je pense qu'ils font partie de notre culture, qui ont toujours été très valorisés par les collaborateurs parce que c'est fait dans un esprit bon enfant. Je ne vais pas dire toujours un peu à l'économie, mais voilà, tout le monde comprend qu'on n'y claque pas beaucoup. Il y a souvent une soirée où on danse.
Okay.
Et j'ai mon rôle dedans. Et c'est bien sympa.
Ok, donc effectivement, donc la cohésion d'équipe, grand sujet chez Incubator. Donc de ce que je comprends, c'est garder le lien physique en fait entre les équipes, à la fois dès qu'ils arrivent, pour les former et aussi tout au long de l'année avec ces séminaires.
En fait, il n'y a pas de miracle. Ouais. Si vous avez des équipes qui sont décentralisées, très télétravaillées, en remote tout seul, il faut garder un lien, un lien humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai que même si on fait des visios, même si on a le chat, si tout ça maintient à l'impermanent, moi, par exemple, ça fait partie de mon rôle de me déplacer régulièrement dans les bureaux parce que on peut pas changer ça.
Ouais.
Donc, si vous avez des équipes décentralisées, vous avez un problème pour lequel il n'y a pas de miracle. Il faut que régulièrement, vous puissiez avoir des échanges qui soient des échanges en présentiel.
Ouais. Et tout à l'heure, on parlait des valeurs d'Incubator. Comment elles sont véhiculées dans toute la France? Est-ce que c'est pendant ces sessions de formation, quand les gens arrivent? Est-ce que les managers intermédiaires ont aussi un rôle là-dedans? Comment ça se passe pour les véhiculer et surtout les maintenir, pas les perdre de vue?
Des valeurs fonctionnent bien dans une entreprise si elles servent de guide aussi aux décisions qu'on prend. C'est-à-dire que nous, les 5 valeurs de l'entreprise, c'est des entreprises qui ne sont pas véhiculées, mais vécues. Et moi, je pense que ça marche beaucoup par l'exemple. Donc, les collaborateurs, ils les connaissent au départ. Et en fait, elles correspondent quelque part à un guide de comportement qui dit quand tu as un choix à faire, pense aux valeurs et ton choix sera plus facile. En fait, c'est ça le principe.
Ouais.
Et des valeurs, ce n'est pas une religion. c'est pas une religion, c'est plutôt une aide au choix correspondant à ce qu'on souhaite faire dans la boîte. Et je vais l'illustrer par ce que sont nos valeurs. Nous, nos valeurs, c'est pragmatisme.
Okay.
Et ça, c'est facile à appliquer au quotidien,
ouais.
Y compris dans le travail qu'on fait avec les startups. On veut leur passer ça.
Mmh.
L'ambition, pour que les gens aient à la fois envie de voir de l'ambition pour eux. Nous, on a pris beaucoup de jeunes, beaucoup d'alternants qu'on forme, qu'on fait grandir. Il y en a qui deviennent cadres dirigeants dans la boîte. Ça, c'est des choses, voilà. Il ne faut pas avoir peur d'avoir envie de grandir, parce que si on n'a pas cette envie, comment la passer à des startups déjà ?
Ouais.
L'honnêteté, fondamentale chez nous. Donc quand on a une question à se poser, voilà, on a une petite direction, on dit bon mais voilà, on va faire ça, qu'est-ce qu'on fait, on le communique aux équipes ou pas, mais la réponse est facile, c'est de dire, c'est 10 fois plus facile d'être honnête que de cacher des choses, parce qu'on ne sait plus à qui on a dit, qu'on n'a pas dit et tout ça. Donc ça, c'est une valeur fondamentale chez nous, et quand elle est appliquée par tous, ben, ça veut dire aussi que ça simplifie considérablement les rapports humains, parce qu'on sait où on en est tout le temps. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment importants. La valeur en suivante, c'est l'engagement.
Ouais.
Donc ça, c'est une valeur d'entreprise forte, parce que comme on avait si loin les startups, on est forcément très engagé à leur côté. Mais ça veut dire aussi qu'elle se traduit dans les équipes par ce côté au quotidien. On ne demande pas d'être engagé, c'est-à-dire de passer ses jours et ses nuits pour la boîte. Ce n'est pas tellement là que ça se traduit. C'est plutôt sur le fait qu'il y a toujours quelqu'un pour vous aider quand c'est trop dur, quand il y a un problème, quand la deadline est trop courte, etc. etc. On n'a pas des gens chez nous qui considèrent que leur travail s'arrête à leur fiche de poste. Et ça, c'est l'engagement des uns vis-à-vis des autres. Et je pense que quand on est comme ça, ça se ressent vite. Et puis le dernier, c'est la liberté. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Donc ça se traduit sur des petites choses chez nous. On ne contrôle pas les horaires de travail, on ne contrôle pas les horaires d'arrivée, de départ. Par exemple, une petite anecdote, chez Incubator, les demandes de congés sont pré-signées. C'est-à-dire qu'on doit les faire dans notre système. Mais en fait, j'ai déjà signé au moment où la demande est faite. Parce qu'on part du principe qu'un collaborateur chez nous, bah, il est responsable, qu'il se sera arrangé avec ses collègues, qu'il ne part pas comme ça sans en avoir parlé à son patron. Voilà, on fait confiance. Et ça, c'est une forme de liberté.
Ouais, et justement, j'allais enchaîner sur la notion de confiance. Comment on fait confiance dans un contexte où on est présent dans 10 villes, où on est 60 comment on fait confiance aux collaborateurs ?
Oui, on le fait, c'est tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dirigeant, vous avez deux choix. Vous avez le choix du micromanagement et du contrôle permanent parce que vous dites si je ne les contrôle pas, ils ne vont pas bosser, ils ne sont pas là, machin, ou en télétravail, ils ne foutent rien, etc. etc.
Ouais.
Et puis vous avez le choix que j'ai fait moi qui est de dire je fais confiance. Il y en a probablement, je n'en sais rien, qui abusent de cette confiance en ne travaillant pas en télétravail ou je ne sais quoi. Mais ils sont probablement en minorité massive. Et que l'énorme erreur qu'on fait en management, c'est de décider de règles parce qu'on ne veut pas corriger des problèmes particuliers. Si vous avez 10 collaborateurs, que vous en avez un qui tire au flanc, on ne fait pas une règle pour corriger les 10 puisqu'il n'y en a qu'un qui pose problème, on s'occupe de celui-là.
Ouais.
Donc moi, le choix, ce n'est pas de dire comment on fait confiance, c'est on fait confiance.
Ok.
Et vous avez deux choix dans la vie, c'est de ne pas faire confiance et que les gens doivent gagner votre confiance, et dans ces cas-là, vous pouvez attendre longtemps, ou vous faites confiance jusqu'à ce que les gens déçoivent votre confiance, et c'est beaucoup plus positif de le faire comme ça. Moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait.
Ok, super intéressant. Et du coup, je voulais aussi parler un peu du Covid et avoir ton retour d'expérience, parce qu'on a parlé de cohésion d'équipe, de valeurs. J'imagine que oui, mais est-ce que le Covid ça a impacté sur la cohésion d'équipe et comment ça s'est passé?
J'ai vous demandé à tous de faire appel à votre mémoire pour bien vous rappeler ce que c'était le premier confinement, parce que le Covid, il n'y a pas le Covid, il y a des étapes dans le Covid. Le premier confinement, si tout le monde s'en souvient, personne, quand je dis personne, c'est pas que dans mes équipes, c'est dans le monde entier, ne savait ce qui allait se passer. Donc un jour, on nous a dit restez chez vous, les entreprises fermaient, Et ce côté exceptionnel, ce côté hollywoodesque du premier confinement, en fait, ça a eu une action sur la cohésion d'équipe, c'est que ça a resserré les liens de manière spectaculaire.
Ouais.
On s'est retrouvés en visio et on a commencé à tous se serrer les coudes, savoir comment on allait faire pour que la boîte passe le cap, qu'est-ce qu'on allait faire avec les startups, etc. etc. Mmh. Si vous vous souvenez, je crois qu'on a été confinés un mardi ou un mercredi et les deux premiers jours, c'était un peu l'excitation. Le lundi, c'est là où j'ai fait retomber l'excitation en prenant des mesures de conservation pour l'entreprise. Mais l'engagement et la cohésion des gens a été extrêmement forte pour mettre en place ce qu'il fallait pour que la boîte survive. Les gens qui ont été mis au chômage partiel l'ont accepté facilement. Bon, c'est pas compliqué à accepter le chômage partiel. Ceux qui ne l'étaient pas parce qu'on n'a pas mis tout le monde ont mouillé la chemise. On était vraiment unis.
Ouais.
Ça, c'était le premier effet du Covid. Deuxième effet positif du Covid, parce qu'il y en a eu à cette époque, c'est comme pour beaucoup d'entreprises, on a dû repenser beaucoup de choses, passer en digital pour beaucoup d'aspects de notre programme, et donc on a été plus efficace sur ouais. plein de choses.
Ouais.
Et pour une entreprise, comme on le disait tout à l'heure, qui a cette difficulté de gestion parce que beaucoup de bureaux. Nous, on a utilisé la visio très, très tôt. Hein. Ce n'était pas encore bien au point quand on l'a utilisé chez Incubator. On a beaucoup de bureaux avec une équipe décentralisée qu'il faut maintenir la cohésion. Mais finalement, le fait que ces outils de visio, de communication à distance, de travail depuis chez soi deviennent communs, ça nous a facilité justement... la préservation de cette cohésion. Voilà.
Ouais.
Ça, c'est pour le Covid saison 1.
Ouais.
Saison 2, 2021, là, l'attentisme et la lassitude prévalaient partout.
Mm.
Ça n'a pas été une bonne année pour nous, ni pour personne, parce que justement, tout le monde attendait de savoir si ça allait finir, pas finir, et comment un jour. À titre personnel, et j'ai beaucoup ce retour autour de moi, j'ai moins souffert du premier confinement, qui est exotique finalement, les apéros à distance et tout ça,
ouais.
que du couvre-feu par exemple. Le couvre-feu pour moi a été un moment, on venait de travailler, c'était novembre, on sortait, il faisait nuit, tout était fermé, c'était mortel. Donc c'était plus compliqué de maintenir la motivation et la cohésion d'une équipe fatiguée par ces confinements successifs, les bureaux fermés, les startups qui ne revenaient plus parce que bah, tout le monde télétravaille, on fait sa boîte, pas tout le monde a besoin de venir et tout ça. On a plus souffert de la suite finalement que de la première vague.
Ouais, c'est le côté lassitude qui était compliqué de maintenir les équipes engagées.
Et encore aujourd'hui, la généralisation du télétravail, surtout chez les startups. Nous, on a des startups très jeunes. On sait que si elles ne sont pas là chez nous en permanence, on ne peut pas suivre leur progrès, on peut les faire avancer moins facilement. Nous, on est en train de repenser notre modèle d'accompagnement, justement parce que finalement, on se rend compte qu'on ne se remettra jamais du Covid. En tout cas, ça ne sera jamais comme c'était avant. Ça sera différent.
Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et donc, en termes d'engagement, donc on vient juste d'en parler, comment on s'assure de l'engagement des équipes, comment on la mesure et comment on peut se rendre compte qu'il y a des déficits d'engagement ou de la démotivation? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des...
Alors nous, on utilise un outil pour nos entretiens annuels qui est très, très efficace, qui nous permet déjà de mesurer ça de manière annuelle et maintenant biannuelle, qui s'appelle OneA. Alors, aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions et de solutions technologiques, en particulier pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer ou de mesurer leur motivation, etc. etc. C'est là où peut-être je vais avoir l'air un peu vintage, mais je l'assume. On gère pas l'humain sans l'humain. Nous aujourd'hui l'engagement des collaborateurs, c'est pas quelque chose qui se mesure en chiffres, en pourcentage. Il est engagé à 90%, 120%. En fait, ça se mesure à la fois sur notre capacité à atteindre des résultats tout en conservant des collaborateurs qui sont heureux dans le travail qu'ils font. Et pour cela, pour se rendre compte, alors, atteindre nos résultats, c'est facile à mesurer. Et le degré de satisfaction des collaborateurs, il passe par, en fait, la capacité à mettre en place des canaux de communication avec eux qui permettent, en toute honnêteté, de finalement prendre le pouls. Parce que le problème, ce n'est pas de poser la question « est-ce que tout va bien ?» C'est qui la pose, quand on la pose, de telle manière à avoir des résultats qui correspondent finalement à nos retours. À la taille d'une entreprise comme la nôtre, puisqu'on n'est pas un grand groupe, on ne peut pas le mesurer, par exemple, sur des choses comme le turnover. Nous, on est structuré pour avoir un turnover important parce qu'on est dans l'innovation. Si j'ai quelqu'un qui veut faire toute sa vie chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, on forme beaucoup de gens. Donc, quand j'ai quelqu'un comme mon premier alternant, Dominique, qui quitte la boîte pour créer la sienne, c'est une victoire pour nous et une victoire pour lui. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est de dire aujourd'hui, l'engagement des collaborateurs est différent selon chacun, ça c'est normal. Pour avoir des collaborateurs engagés, quelque part, il faut leur donner, partager la satisfaction du résultat obtenu, c'est-à-dire qu'en fait, que ça soit des victoires partagées. Donc nous, on a des systèmes, par exemple, de rémunération variable qui permettent de partager ces résultats. Et puis, de l'autre côté, c'est avoir des canaux de communication qui soient clairs, qui soient simples, qui soient ouverts pour qu'on puisse toujours mesurer un petit peu le pouls. Donc nous, par exemple, outre la proximité, le management très horizontal qu'on a qui facilite beaucoup ces échanges, on a mis en place, alors que ce n'était pas du tout notre obligation légale, déjà une forme de délégué du personnel qui fait un canal de communication alternatif au management aux ressources humaines pour prendre aussi le degré de satisfaction des collaborateurs. Puis après, j'aurais tendance à dire que si vous développez une culture d'entreprise de transparence, par exemple, ce que nous on fait, parce qu'à peu près tout le monde peut tout savoir sur tout, il n'y a pas de secret chez Incubator, ça engage les gens à parler beaucoup plus librement sur tout. Une culture d'entreprise où on fonctionne sur le concept du need to know basis, c'est-à-dire si tu n'as pas le rang hiérarchique ou si ce n'est pas ton job, tu n'as pas besoin de savoir, ne favorise pas le fait que les collaborateurs expriment leur satisfaction, et c'est dans la mesure de la satisfaction combinée aux résultats obtenus que mesure l'engagement.
D'accord. Ok, super clair. Pour terminer ce podcast, on va passer à une série de recommandations. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes managers et une erreur à éviter ?
Alors, je donne des conseils toute la journée, mais on peut dire que, en fait, ce qui se passe sur un jeune manager, c'est toujours le plus compliqué. Donc, comme je te l'ai dit à toi aussi en son temps, et comme je le dis souvent, un manager, et on va dire un entrepreneur, j'ai envie de dire, parce que moi je considère surtout les entrepreneurs, une boîte ne vous appartient plus au premier salarié. Donc en fait, un manager doit toujours penser à ses équipes dans une dimension plus large que de simples ressources. Elles deviennent en fait le cœur vivant de son entreprise. C'est celles qui lui permettent, c'est pas des gens qui sont facilement interchangeables. Capitaliser sur les gens qui font partie de vos équipes, c'est gagner du temps et donc gagner de l'argent et donc gagner en efficacité, gagner en culture, gagner en force. Et pour cela, il n'y a qu'une règle, c'est accepter de partager. Donc un manager, voilà le conseil que je donne. Vos équipes ne sont pas à votre service, vous êtes au service de vos équipes.
Okay.
Si vous embauchez des gens, c'est parce qu'ils savent faire des choses que vous ne savez pas faire, et votre devoir, c'est de faciliter leurs tâches. Ils en seront d'autant plus efficaces et vous simplifierez, vous atteindrez mieux vos objectifs. Donc ça, c'est un truc à ne pas oublier. On ne doit pas se placer dans la position hiérarchique, dire je suis le chef parce que je suis meilleur, j'en sais plus, je suis plus fort. Non. Si je suis le chef, je suis au service des autres pour qu'ils puissent faire mieux leur travail.
Donc ça demande un peu d'humilité aussi.
C'est une forme d'humilité, mais c'est surtout une grosse forme de pragmatisme. Les gens ne sont pas là pour m'aider à faire mon travail, je suis plutôt là pour aider à faire le leur.
Ok. Et une erreur à éviter ?
Alors l'erreur, il y a deux erreurs à éviter. La première, c'est lié à ce que j'ai dit auparavant, c'est de considérer que le management, c'est une notion hiérarchique.
Ouais.
Pour moi, le management n'est pas une notion hiérarchique. C'est la capacité à mettre en place, en fait, un système collaboratif qui va permettre d'atteindre des objectifs. Et donc, Voilà. Vous êtes manager, vous n'êtes pas chef.
Ouais.
Et ça, c'est très français en particulier. Ouais. Deuxième erreur, là, c'est un peu plus, on va dire, un peu, c'est pas de l'expérience personnelle, mais je l'ai beaucoup vu dans beaucoup d'entreprises. Il faut juste être très lucide sur une chose. L'entreprise est un cadre par nature ingrat, donc il ne faut pas s'y engager émotionnellement. Ouais. On peut se faire des potes chez ses collaborateurs. Nous, alors chez Incubator, c'est hallucinant parce qu'ils sont tous ça invite, mariage, machin, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est trop bien. Mais même si vous aurez vécu des aventures super intéressantes et tout, même si vous vous engagez fortement et que vous engagez aussi, vous le faites avec votre cœur, et ça c'est super, et je ne dis pas de ne pas le faire du tout, sachez toujours garder une forme de distance parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Les entreprises, c'est fragile, vous pouvez vous retrouver licencié du jour au lendemain, vous pouvez décider de partir du jour au lendemain, donc trop d'implications personnelles. Enfin, trop d'application émotionnelle, ouais, plutôt, pas personnelle, peut être contre-productif. Mmh. Et voilà, sachez toujours vous rappeler d'une chose, c'est un super job, vous pouvez vous y donner à fond, mais ça n'est qu'un job.
Ouais, ok. Et pour finir, est-ce que tu as une recommandation de livre ou de contenu pour nos auditeurs?
Alors, Je suis assez peu consommateur de développement personnel ou de livres de management, peut-être je ferai mieux. Donc j'ai plutôt envie de parler d'un livre qui, que beaucoup de gens ont lu et connaissent, mais je vais quand même le citer. Parce que pour moi, ce livre, aujourd'hui, à l'époque où on parle, est un game changer. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé, parce que ben, ça touche plus l'entrepreneuriat que le management pur. Aujourd'hui, on ne peut plus penser son entreprise, on ne peut plus penser ses équipes. Parmi toutes les valeurs qu'on doit transmettre, il y a quand même la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la société, de la planète aujourd'hui, parce qu'on vit quand même une crise. Ce podcast est enregistré en hiver, je dis ça pour ceux qui le réécouteront en été. Et on a des feux de forêt en hiver. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà. Et donc, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Un monde sans fin, donc, qui est un livre qui est ce qu'on appelle un roman graphique. Et ce livre, Un monde sans fin, en fait, explique très clairement l'enjeu climatique dans lequel on est, historiquement, ce qu'a été la consommation. Et moi, il m'a vraiment ouvert les yeux sur quantité de choses sur lesquelles j'avais beaucoup de clichés, beaucoup d'idées reçues, etc., etc. Un livre pas facile à lire parce qu'il peut être assez déprimant sur la manière dont nous avons consommé notre planète pendant un certain temps, mais qui dessine beaucoup de pistes. Et j'y trouve à titre personnel aussi beaucoup d'inspiration par rapport à mon entreprise, sur ce que c'est que la consommation, sur la manière dont on peut faire les choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un livre de management que je veux donner comme reco, mais j'ai envie de vous recommander celui-là. Et il est très sympa à lire. Il s'appelle donc « Un monde sans fin ». Un livre carré jaune que vous trouverez partout, car il a un succès gigantesque.
Oui, ouais, tout à fait. Bah, écoute, non, mais on est preneurs en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un super moment. J'espère que tu as apprécié ce moment.
Adoré. Merci, Louis.
Merci à toi. À bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.